représentation de son héros comme un personnage pas franchement sympathique, on verra bien. Christophe Lambert, lui aussi, plusieurs genres littéraires, mais là en particulier, un peu plus, là encore dans la SF, ou en tout cas dans l'anticipation, on va dire.
Le Vegas Mythos, c'est plutôt du roman noir teinté de fantastique, je dirais.
Avec là aussi un personnage qui, comme le dit l'intitulé du café littéraire, boit, fume, etc.
Un personnage un peu à la dérive, ouais.
Et puis Vincent Message, alors ça va être très difficile de parler de votre livre dans ce café littéraire, Vincent, parce que on ne peut pas révéler la fin, évidemment, surtout que ce serait quand même dommage, vu que c'est un livre de 700 pages. et que nous, lecteurs, on ne le sait qu'à la fin, finalement, si c'est un gentil ou un méchant, ou si c'est quelqu'un de net.
Oui, encore, je ne suis même pas sûr que tous les lecteurs se fassent une idée très précise là-dessus.
Alors, on va y revenir. Jean-Philippe, on va commencer avec vous, parce que vous, alors moi, c'est clair, c'est radical d'en gagner la guerre. Il n'y a pas beaucoup de gens sympathiques, en fait.
Oh, si.
Le plus sympathique, c'est un tueur.
Oh si, il y a des gens sympathiques.
Des noms.
Alors, il y a quand même un héros dans Gagner la guerre. Il est flingué au bout de 20 pages.
Oui, c'est vrai, j'avais oublié celui-là.
Il y a une mère admirable. On s'en sert. Alors, elle est reniée par son fils qui est une crapule, et on se sert d'elle en fait pour faire chanter sa crapule de fils afin qu'il devienne un criminel encore plus abject. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme personnage admirable ? Si, il y a des personnages admirables. Il y a un brave chevalier qui comprend rien à la situation, qui rentre pour aller dire bonjour à son vieux papa. Et en fait, il se rend pas compte qu'il est instrumentalisé par le vieux papa qui veut servir de son escorte pour libérer ses propres hommes et aller buter la famille adverse. Donc oui, non, il y a des gens bien dans mon bouquin.
Bon, si vous le dites, moi je vous crois. Mais est-ce qu'on prend justement, quand on est écrivain, un plaisir supérieur finalement à créer des personnages qui sont pas... alors je vais pas porter de jugement moral, donc je vais dire qui ne sont pas lisses finalement.
Alors,
comme peuvent l'être quelquefois les héros qui sont sans faille, sans défaut.
Oui, on y prend un grand plaisir parce que pour ma part, j'y prends un plaisir coupable. Étant donné que je suis quelqu'un qui a une morale assez convenue, et du coup, mettre en scène un personnage aussi abject qui a absolument toutes les qualités, puisque si j'énumère rapidement, il est tueur, ça c'est banal, voleur, fornicateur et même un peu violeur, raciste.
Joueur.
Joueur, oui, c'est vrai, oui. Mais il est presque sauvé par le jeu à un moment donné. Pour la plupart de ses vices, je dis bien la plupart, il y en a peut-être un ou deux que je pratique, mais je ne dirai pas lesquels. Pour la plupart de ses vices, il m'est très étranger.
Vous croyez que je vais vous laisser vous en sortir comme ça, Jean-Philippe?
C'est un plaisir coupable que de donner la parole, puisqu'en plus c'est lui qui s'exprime, c'est lui le narrateur, à un personnage aussi abject. Et au bout d'un moment, oui, ça devient vraiment jubilatoire. Cependant, je plaide non coupable. Je plaide non coupable parce que si j'ai donné la parole à un personnage de ce type-là, c'est pas de ma faute, c'est de la faute au public. Et c'est la vérité. Moi, j'ai donné la parole à ce personnage pour tapiner. Et pourquoi ? Parce que c'est un personnage qui est issu du recueil de nouvelles que j'avais publié auparavant, où chaque nouvelle présente un personnage différent. Il y avait des personnages très bien dans ce recueil de nouvelles. Mais j'avais prêté l'oreille au retour que j'avais de mes premiers lecteurs. Et celui qui semblait enthousiasmer le plus grand nombre, c'était le plus pourri. Donc je me suis dit, s'il faut que j'écrive un roman qui accroche le public, je vais prendre ce qui plaît au public, c'est-à-dire le plus abject.
On y reviendra. Christophe Lambert, Vegas Mytho, on l'a dit, donc c'est un personnage. Voilà. Alors lui, c'est pas forcément qu'il a des défauts, mais c'est il est amené par la vie finalement à devenir petit à petit.
C'est pas tellement envers les autres qu'il projette des choses négatives. Il est plutôt autodestructeur. Hein. C'est un personnage. À la Charles Bukowski ou à la Californication pour les plus jeunes qui n'auraient pas lu Bukowski. Donc, comme dans l'intitulé, il boit, il fume et plus ses affinités. Et en fait, il pense qu'il est atteint d'une maladie.
Vous pouvez le dire, tout le monde a plus de 18 ans ici, donc ça va.
D'accord.
Je crois. Hein.
La Corée de Huntington. Et donc, il brûle la chandelle par les deux bouts. Quoi. Il essaye de vivre à 200 à l'heure. En fait, j'ai créé ce personnage parce que le contexte du roman, le concept, c'est que les dieux de l'Olympe sont parmi nous incognito. On les retrouve en 1957, patron de casino à Las Vegas. Donc je ne voulais pas que l'un de mes personnages principaux soit un super-héros, enfin, puisque les dieux ont encore quelques reliquats de pouvoir dans mon histoire. Et je voulais qu'on découvre ce clan divin à hauteur d'homme. J'avais vu ça dans Ilium et Olympos de Dan Simmons et je trouvais très bien ce parti pris. Il y a le personnage du scoliaste qui est un peu comme un nain au milieu des géants et qui regarde par des trous de serrure et qui voit des choses fantastiques. Et pour l'identification, je trouve que c'est plus facile de s'identifier à quelqu'un d'humain avec toutes ses faiblesses qu'à des super-héros. Donc j'ai pris les deux opposés du spectre. On a les dieux de l'Olympe et cette pièce rapportée qui est ce bonhomme complètement à la dérive, alcoolo, vraiment autodestructeur, et qui va rentrer dans la famille. Et on va découvrir progressivement la véritable nature du clan Stamatis par ses yeux à lui.
Laurent, juste avant qu'on démarre, vous me disiez, mais je me demande ce que je fais là dans ce café littéraire. Pourtant, votre personnage...
J'avais pas tout compris, en fait.
Votre personnage, c'est un envoyé du démon, alors il est forcément pas...
Ah oui, pour la fantasy, là, c'est un peu, j'allais dire, des pourris, mais... Non, en fait, ils font leur boulot, quoi. Simplement, c'est donc les hordes, c'est des bandes de mercenaires qui se vendent aux seigneurs, qui se font une guerre perpétuelle. Donc là, c'est le système qui génère ce genre de situation.
Un peu comme chez Jean-Philippe, finalement, où ouais. Peut-être que Benvenuto, il était très gentil au départ et puis qu'il a été corrompu par un système. C'est les événements qui corrompent.
Et après, c'est les personnalités qui adhèrent ou pas spontanément, ou qui s'épanouissent ou qui se racornissent au contraire dans ce type d'environnement délétère pour la morale, quoi.
Voilà. Mais alors, quand on part sur le postulat de départ que le personnage central va être un envoyé du démon, ça remet en cause toute la hiérarchie des valeurs, non, j'imagine, à l'intérieur du récit.
Alors dans le monde développé, il y a le monde des hommes et le monde des démons, mais c'est une vision japonaise un peu de la fantasy, c'est-à-dire où le monde des hommes, le monde des démons coexistent très bien, et c'est un peu quasiment des sortes d'univers parallèles, chacun ayant ses propres règles et avec des ponts entre. Donc finalement, on est au cœur de la fantasy, donc c'est très naturel d'avoir ce type de personnage. C'est pas un personnage qui viole la réalité à défaut d'autre chose.
C'est pas un pur méchant parce qu'il aime ça et...
Ah non, pas du tout. C'est un pacte simplement pour avoir plus de pouvoir.
Et puis alors, il reste Vincent Message. Et c'est vrai que là, ça va être un petit peu compliqué de parler. Quoique, on peut parler même des personnages qui sont autour de votre personnage central, puisque eux aussi, ils ont des failles, ils ont des défauts. On va brièvement raconter l'histoire. Mais on a donc un homme qui un jour sort dans la rue, tue trois personnes... et puis s'allonge sur les corps des trois personnes et s'endort. Voilà, ça, c'est le point de départ de l'histoire. À partir de là, on va essayer de comprendre ce qui l'a amené à ce geste. Et ce sont un psy et un policier qui vont en particulier s'atteler à essayer de comprendre, avec d'ailleurs une relation entre le psy et le policier qui va se nouer, qui va être très particulière. Et puis, ce personnage qui, visiblement, vit dans ses rêves, ça on peut encore le dire, et d'essayer de comprendre finalement... dans quel monde parallèle il vit finalement lorsqu'il s'endort.
Oui, donc ce personnage qui s'appelle Nexus, c'est un type assez marginal dans la société dans laquelle il vit, qui exerce le métier de veilleur de nuit, et qui donc a abattu trois personnes dans la rue. La question étant de savoir pour ces deux enquêteurs s'il est responsable de son acte ou pas, s'il avait toutes ses facultés mentales au moment du crime. Donc on est...
Tant qu'au procès, il se défend pas énormément.
Voilà, il reste mutique lors de son procès, donc c'est quelqu'un d'assez opaque, on comprend pas très bien ce qui l'a poussé à ça. On ne sait pas si lui-même en fait le sait, ou si c'est quelque chose qu'il a oublié et qu'il a été pris d'une impulsion, etc. On est c'est ni un méchant ni un gentil. On est un peu au-delà de ça, de ces catégories-là. La question, c'est plutôt de savoir, dans la relation qui se noue entre les trois, pourquoi est-ce que on est tellement fasciné dans notre société par des figures, par les faits divers et par les figures de meurtriers qui y émergent et qui, avec une société très médiatisée, en plus souvent deviennent célèbres du jour au lendemain. Et on est en particulier fasciné, me semble-t-il, quand il y a une incertitude pour savoir si ces gens sont fous ou pas. Et est-ce qu'ils entrent encore dans notre logique ou est-ce qu'ils obéissent à une logique autre ?
La différence par rapport à ce qu'on vient d'entendre avec les trois autres auteurs présents, c'est qu'on est quand même, on se pose quand même tout du long du roman la question de la perversion de ce personnage. Est-ce que c'est un fou pervers ? Est-ce que c'est un être réellement dangereux ? Dans un sens vraiment très, très précis, puisque vous êtes vraiment dans un univers de littérature contemporaine, présent, etc., même si après il y a d'autres aspects, mais ça on en parlera dans un autre café littéraire tout à l'heure. Mais c'est vrai qu'on est, voilà, on est quand même à la lisière de la psychiatrie, de la perversion, de la folie. Là, c'est plus ça qui finalement le rend inquiétant, ce personnage.
Oui, je crois qu'il est inquiétant parce qu'on ne sait pas exactement où il est. Et donc, au bout d'un moment, les deux enquêteurs comprennent que c'est quelqu'un qui vit largement dans ses rêves, qui à côté d'une vie réelle extérieure assez pauvre, a une vie onirique très riche, qu'il fait entrer dans une sorte de monde parallèle, et que pour comprendre les mobiles de son crime, il va falloir explorer ça. Ils se mettent en danger en l'écoutant, c'est-à-dire en lui demandant raison de son crime, et en écoutant ensuite les récits qu'il fait. Ils ne savent pas exactement eux-mêmes sur quel pied danser et à qui ils ont affaire.
Parce qu'il est la seule source d'information. Donc il peut très bien leur raconter n'importe quoi.
Voilà, tout à fait. Il y a cette ambiguïté. Quand la question, c'est pas de savoir qui a tué, mais pourquoi, quand on s'intéresse au mobile, au bout d'un moment, comme dans la science des rêves, en fait, la seule source d'information, c'est le rêveur. Et donc, il faut accepter de se perdre un moment avec lui dans son monde. Et c'est ce que fait le psychiatre qui attache une grande importance à ça, c'est-à-dire pas juger les gens trop vite, pas savoir si c'est des mauvais garçons ou pas, mais leur donner une chance d'essayer de comprendre leur logique, y compris quand elle paraît délirante et quand elle sonne comme une langue étrangère, et de la décrypter pour ensuite essayer de les ramener à nos normes et à notre société pour qu'ils puissent se réinsérer, etc. Donc c'est dans cette tension-là que ça se joue et effectivement ils savent pas trop sur quel pied danser.
On a parlé des personnages centraux, mais il n'y a pas que finalement, il y a aussi, on l'a évoqué déjà avec Jean-Philippe, avec Laurent et d'une certaine manière avec Christophe, il y a aussi l'entourage finalement, ce qu'il y a autour de ces personnages qui peuvent paraître quelquefois peu sympathiques, peu amènes, ou en tout cas ayant beaucoup de vices et de défauts. Souvent, quand on regarde ce qui se passe autour d'eux, c'est pas beaucoup plus réjouissant finalement, Jean-Philippe par exemple.
Oui, alors pour ce qui est de...
Parce que Benvenuto, c'est presque le plus sympathique, finalement. C'est presque celui avec lequel on peut oui. Presque avoir le plus d'affinité, non ?
Si on le trouve sympathique, il y a beaucoup de monde qui le trouve sympathique. En fait, c'est, je pense, parce qu'ils sont piégés par la première personne. Il y a le vieux procédé de l'identification au narrateur. Hein, et le narrateur présente toujours les choses à sa manière. Et par conséquent, c'est ça qui le sauve un peu. Mais c'est vrai que Benvenuto... plonge, alors appartient déjà à une société criminelle, la guilde des chuchoteurs, qui est en fait une espèce de mafia, au sens le plus ancien du terme, et puis la république dans laquelle il mène ses activités criminelles est elle-même une république criminelle. Alors là, c'était un parti pris délibéré de ma part, dans la mesure où j'ai voulu faire une illustration fantasy de la pensée de Nicolas Machiavel, telle qu'il expose dans Le Prince, Machiavel affirmant que l'homme est mauvais. Et que, par conséquent, pour gouverner les hommes, il ne faut pas s'en faire aimer, mais il est préférable de s'en faire craindre, parce que si on s'en fait aimer, de toute manière, tôt ou tard, ils lâcheront le gouvernant qui est juste et équitable avec eux quand leurs intérêts le détourneront pour une raison X ou Y de son service. Et à partir de ce moment-là, dans la mesure où Benvenuto lui-même se met au service politique qui suivent cette ligne, il devient l'exécuteur de gens qui sont profondément corrompus, avec un degré de corruption qui effectivement est supérieur à celui
de l'inacceptable en plus. Il accepte de l'inacceptable parce qu'ils vont lui demander à la fois de faire mais surtout de vivre tout des choses qui sont, que le commun des mortels refuserait de faire.
Tout à fait. Alors vient se greffer, alors, ce qui est peut-être le plus terrible pour lui, vient se greffer la question de la loyauté à un maître, à un seigneur qui est charismatique, mais qui, pour son intérêt personnel, non seulement est prêt à faire liquider un certain nombre de personnes par son exécuteur des basses œuvres, mais il est prêt aussi à liquider son exécuteur des basses œuvres si besoin est. Quelque chose qui apparaît très très vite, puisque dès la première mission qu'il remplit, il se rend compte qu'il est quasiment une pièce sacrifiée, que le podestat de Ducatore, qu'il a envoyé mener une négociation très difficile où il est lui-même menacé, ne lui a pas prévu de porte de sortie, l'a laissé se débrouiller, en fait, estimant qu'il le paye suffisamment cher pour qu'il gère lui-même à la façon dont il se tire des guépiers ou on l'a mis.
Et lui expliquer ensuite benoîtement quand il rentre que mais non, pas du tout, au contraire, on pensait très fort à lui.
Oui, oui, oui. Et puis même, il lui dit que finalement, puisqu'il a réussi à se tirer de cette situation où lui, son patron, on l'a mis, c'est qu'il a fait la démonstration que c'est un homme efficace. Donc il en tire cette noblesse et il le félicite pour ça.
Laurent, on le disait là aussi, le contexte, ça joue forcément, puisque on a des traits de fracture finalement qui vont au-delà d'une simple rupture bien mal. On peut dire ça comme ça?
Ah ouais, complètement.
Les cartes sont beaucoup plus brouillées finalement.
Bah, on a en fait, c'est ce que permet aussi la SF et la fantasy, c'est remettre à plat, j'allais dire, les normes. Et Vincent, tu disais justement que le but justement, c'est d'essayer de comprendre ce qui apparaît pour nous une perversion, mais qu'il n'est pas forcément sur un autre code personnel qui est issu de soit une, je sais pas, une pathologie ou autre. Et en fait, c'est un peu en fantaisie, c'est un peu la même chose finalement, où on met à plat d'autres, en instaurant d'autres règles, y compris d'autres règles morales. On peut justement voir quel est le rôle de la pression sociale sur un acte. Quel est le voilà en fait le tout le la trajectoire du personnage principal, c'est un chef mercenaire, enfin un capitaine de horde qui prend conscience de la valeur de la enfin de la vie simplement parce qu'il est confronté à la mort de ses proches, tout simplement de ses hommes, et il considère que c'est plus j'allais dire là où ça résonne par rapport à notre société qui a tendance à déréaliser justement la mort, les souffrances, etc. C'est frappant avec les faits divers, par exemple, où finalement ça déréalise beaucoup. On expose des faits sans vraiment les ressentir. Finalement, c'est pas parce qu'on montre qu'on fait ressentir, en fait. Surtout de la façon dont c'est fait. Lui qui a combattu sur le champ de bataille, c'est la valeur que prend la vie, spécialement dans un monde où la valeur de la vie est pas ce qui compte, enfin est secondaire, notamment celle des paysans, des mercenaires, etc. C'est-à-dire qui ont une valeur clairement moindre.
Est-ce que la morale intervient quelque part, ou est-ce que finalement c'est autre chose? Il fait son job et puis c'est tout. Voilà, il n'y a pas de questionnement particulier sur est-ce que c'est bien, est-ce que c'est mal.
Il commence à se poser des questions sur parce qu'il se dit finalement je suis en train d'agir de façon pas immorale mais de façon absolument non conforme à ce qu'on attend de moi, à ce que le monde attend de moi. Donc est-ce qu'il faut pas changer le monde à ce moment-là? Voilà.
Christophe, votre personnage, lui, on l'a dit, il est borderline, mais il va se retrouver embringué dans une histoire où là pour le coup des grands méchants, il y en a de partout, tous les côtés.
Oui, alors mon envie en écrivant ce roman, c'était de faire le parrain de Coppola mais avec des super pouvoirs. Donc ça baigne dans l'ambiance mafia Amérique clandestine. En plus, ça se passe dans les années 50, qui sont généralement des années représentées comme très pimpantes, lumineuses, essor économique, petite banlieue pavillonnaire. Et là, c'est toujours amusant de se glisser dans les coulisses sombres de l'histoire. Donc outre mon personnage là, qui est un peu largué, on a des chefs de clans, puisque différents clans vont s'affronter. Alors il y a les Italiens avec Sam Giancana, mais qui apparaissent de loin en loin. Il y a même Edgar Hoover, le patron du FBI, qui était assez perturbé aussi comme garçon. J'ai lu entièrement une biographie de Howard Hughes, qui était à Las Vegas, dans les parages en tout cas à cette époque-là, qui lui aussi est très très torturé comme personnage. Et dans la biographie d'ailleurs, il y a des détails qu'on n'oserait même pas imaginer soi-même. Donc des fois, il vaut mieux puiser à la source.
Comme le fait qu'il buvait du sang ou des choses comme ça?
Comme le fait qu'il buvait du sang. Enfin bon, ça c'est controversé, mais je sais pas si vous avez vu le film Aviator. Il a fait plusieurs atterrissages forcés. Ça lui a un peu tapé sur le ciboulot. Il avait une il voulait que tous les gens autour de lui soient des mormons de pure souche, et il avait une peur, une phobie des microbes. Et donc il a fini sa vie cloîtré, calfeutré chez lui, à l'état de momie quasiment. Donc personnage très, très intéressant.
L'argent ne fait pas le bonheur. Hein.
Non. On l'a bien vu dans Dallas et Dynasty. L'argent ne fait pas le bonheur, c'est vrai. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Bah, le chef du clan des Grecs, qui n'est autre que Zeus, c'est pas un mauvais bougre, hein. C'est un patriarche, mais il cherche à protéger son clan, donc à partir de là, la fin justifie les moyens. Et notamment, il va torturer. Alors, Zeus peut lancer des éclairs, hein. Mon Zeus à moi. C'est le dernier reliquat de super pouvoir qui lui reste. Et à un moment, il chope un mercenaire qui a essayé d'attenter à sa vie. Il l'emmène dans la salle des coffres au sous-sol. Et là, il le torture. Alors, c'est pas à la Gégène, mais avec ses mains, il lui attrape les testicules et il le grille sur place. Donc, voilà, ce personnage. Ah, vous vouliez des bad boys, vous êtes servi. Donc, il y a une femme fatale aussi, oui, parce qu'on est dans un roman noir. Donc, voilà, un peu comme dans Chinatown, souvent là.
Vous avez remarqué qu'il y a que les demoiselles qu'on rit et tous les garçons, ils ont retenu leur souffle.
C'est le moment choc du roman. Donc voilà, il y a une femme fatale aussi, très belle, mais ses intentions sont-elles aussi pures que son visage lisse? Je ne vous le dirai pas.
Il faut lire le livre. Voilà. Ça me paraît une bonne chose. Vincent Message, là aussi, d'ailleurs, ça a été un petit peu évoqué par vous, puis également par Laurent. La question aussi qui se pose, c'est quelle influence la société a-t-elle pu avoir sur Nexus pour qu'il en arrive à ce geste aussi, finalement. Au-delà même, après, de l'aspect que vont découvrir les deux autres personnages importants du livre sur sa vie onirique, il y a quand même cet aspect-là d'une société qui amène quand même à ce qu'un jour, un homme sorte dans la rue avec une arme à la main et tire sur trois personnes prises au hasard.
Oui, c'est vrai que je me suis beaucoup intéressé à ça, à cette imbrication entre l'air qu'on respire et la violence qui en ressort. Et je crois que la thèse de la responsabilité individuelle est très paresseuse, quoi. L'idée que ça naît dans le cerveau de quelqu'un et que on n'a aucune responsabilité là-dedans, à mon avis, ne tient pas très longtemps. Et donc, en l'occurrence, on regarde un peu, ils vont chercher à découvrir la trajectoire de ce personnage, et notamment son isolement dans la grande ville, enfin le fait que ce soit un univers très très déstabilisant pour lui. Ça se passe dans une ville fictive qui s'appelle Rexon, et qui est une ville où il y a une ambiance assez noire, où effectivement ce qui est permis et ce qui est illicite, la frontière est très floue. Et puis lui, c'est aussi un petit, on pourrait dire. C'est quelqu'un d'assez marginalisé, y compris dans son environnement professionnel, par exemple. Enfin, il est avec des espèces de gros bras dans une société où il joue le vieillard de nuit, et il se sent pas à la hauteur de sa mission, pas à la hauteur de ce que ses collègues font ou posent comme normes, etc. Donc c'est tout ça qui fait que au bout d'un moment, il dérape. Voilà. Mais comment est-ce qu'on bascule exactement? Qu'est-ce qui joue au moment où on bascule? Moi, mon but, c'était vraiment, pour revenir à cette histoire d'identification, aussi de me mettre dans sa tête. Il y a plusieurs points de vue dans le roman, mais un des points de vue, c'est dans la tête du meurtrier.
Parce qu'il va nous raconter son histoire dans les rêves, justement.
Il raconte son histoire dans les rêves. Il commence son histoire juste après le procès où il a fait le choix de ne pas se défendre et de rester muet, parce qu'il ne sait pas exactement comment il pourrait se défendre. L'expérience très intéressante et très perturbante pour moi, c'était de me rendre compte que plus on essaye de se représenter concrètement, justement, au-delà de la déréalisation dont parlait Laurent, ce que c'est que remonter une rue avec un pistolet dans la poche, ce que c'est que de viser des gens au hasard, etc., plus on peut éprouver de l'empathie aussi pour ce genre de personnage. Donc moi, j'ai plus le même regard quand je lis des faits divers dans la presse après avoir passé quelques années à essayer de vivre avec Nexus. Et c'était ça aussi qui m'intéressait. C'était voir les fragilités des gens et voir comment ces fragilités dégénèrent en violence.
Et à côté de ça, on a donc un peu le... Ah, c'est pas un duel parce qu'en même temps ils s'apprécient, mais la relation très particulière qu'il y a entre le psy et le flic, qui sont presque un peu comme le petit ange et le petit démon qui viendraient s'installer sur l'épaule de Nexus à chaque fois, parce qu'il y en a un qui est prêt à le croire pratiquement à 100% et l'autre qui s'en méfie finalement comme la peste.
Oui, ça me... avoir plusieurs personnages, moi c'est un des trucs que j'aime dans le roman, c'est d'avoir une galerie comme ça qui permet aussi des lumières différentes sur le même phénomène ou des regards différents. Donc il y a Paolo Strilviero qui est ce flic qui, après avoir traqué pendant des années des criminels, sans trop se poser de questions finalement, a envie sur ce cas-là, qui lui paraît particulièrement énigmatique, de se poser un peu plus, de prendre son temps et d'essayer de comprendre cette fois-ci les mobiles et la logique interne. Mais c'est quand même un rationaliste, c'est quand même quelqu'un qui est habitué à ce qu'on mette les preuves sur la table, à ce qu'on explique les choses de façon très, avec une logique très simple, très causale, etc. Donc il a du mal à décrocher. Quand Nexus commence à raconter ses rêves et que pour justifier son crime, pour leur révéler son mobile, il les emmène quand même loin et ailleurs, Riviero, il a du mal, il freine un peu des cas de fer. Et puis en face, on a ce psychiatre qui, au contraire, est prêt à faire ça. Donc, est prêt, parce qu'il sait que l'écoute est fondamentale dans ces cas-là, à prendre plus de temps. Donc, ils sont en tension permanente. Il y en a un qui tire et l'autre qui freine. Effectivement, et ce qui était important aussi pour moi, c'est un code du policier avec lequel je joue, c'est que c'est un peu... la mission qu'on prend trop à cœur, souvent c'est quand même ça le policier, c'est pas la mission banale qu'on va raconter, c'est la mission où l'enquêteur s'investit plus qu'il ne devrait, parce que le cas qu'il rencontre joue avec des failles en lui, ou révèle des choses sur lui-même qu'il n'a pas forcément envie de connaître, mais dont il se rend compte peu à peu. Donc, au bout d'un moment, il se retrouve très isolé avec ce criminel, il l'emmène dans une annexe d'une clinique psychiatrique qui se trouve dans les montagnes, et ça fonctionne un petit peu en huis clos, ce qui fait que toute leur attention est vraiment focalisé par ce qu'ils racontent et aussi par la façon dont ça les remet en cause, eux, dans leur passé, dans leurs expériences propres, dans leur rapport aux fantômes qui trimballent comme on a tous des fantômes. Un jeu de miroir comme ça, entre trois personnages, et trois personnages qui sont aussi importants les uns que les autres aussi. Hein, y a pas vraiment de personnage principal dans mon livre, ça se joue vraiment en trio. C'était ça qui m'intéressait, et voir comment on évolue au fil des mois dans un jeu de relations très serré comme ça, et quand on passe énormément de temps avec des gens qui nous perturbent.
Jean-Philippe, même vos elfes, c'est des têtes à claques. Non mais c'est vrai, ils sont insupportables vos elfes.
Oh oui, 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 c'est vrai, c'est vrai. Mais alors pour d'autres raisons. La question est, est-ce que j'aime les gentils ? Ben alors, oui, j'aime les gentils, mais finalement, les gentils, ils sont... Ils n'ont pas d'histoire. Ben oui, oui.
Le bonheur, ça, c'est pas une
bonne histoire. Ils sont souvent un peu ennuyeux. Ceci dit, mes elfes sont gentils. Hein.
Non, c'est ça. J'ai pas dit qu'ils étaient forcément méchants, mais il y a un moment, ils sont pénibles, quoi.
Oui, un petit peu. Alors bon, une clé, il y en a un quand même, il y en a un qui apparaît aussi bien dans le roman que dans le recueil de nouvelles, et c'est un elfe qui provoque inconsciemment du malheur. Bon, c'est plus vrai dans le conte de Suzel où en fait une petite paysanne le croise un jour, elle a une révélation, c'est le prince charmant, et puis il lui dit que bon, il lui accorde une importance toute relative, hein. En fait, il veut savoir où il est, mais il est charmant. Hein. Et puis, bon, il lui dit que comme elle a répondu à ses questions, elle lui fait penser à une petite fleur, puis quand il repassera, elle lui en apportera une. Elle l'attend toute sa vie. Elle l'attend toute sa vie. Elle rate sa vie. Et quand elle finit par le revoir, alors qu'elle est très, très âgée, il ne la reconnaît pas, bien sûr, hein. Mais il lui dit qu'il a déjà dû passer par là et que à l'occasion, si elle croise cette fille qu'il a vue, il lui apportera de ses jours la fleur dont il lui a parlé. Alors, cet elfe qui oublie aussi quelque chose, ce qui manque d'être dramatique aussi pour Benvenuto dans Gagner la guerre, je me suis amusé sur le plan onomastique. Je lui ai donné un nom qui existe bel et bien. Je lui ai donné un nom qui existe dans les Mabinogion, c'est-à-dire dans un recueil de contes gallois du Moyen-Âge. Il s'appelle Anoes Vedoc, ce qui en gallois signifie le sot insolent. Et donc, il était prédestiné par sa distraction à répandre du malheur autour de lui. Donc, oui, je trouve ça assez drôle, même si c'est de l'humour noir. Que même des personnages qui a priori puissent paraître séduisants finalement soient source de malheur.
Oui, parce qu'il est même aigri finalement, l'un des elfes, on peut dire ça.
Alors, je révèle pas tout à son sujet. Bon, oui, il y a deux autres elfes. Il y en a un qui est un pochetron. Lui aussi, il est charmant, hein, mais il est quand même alcoolique au dernier degré.
Il paye pas ses additions, surtout.
Il paye pas ses additions, mais surtout, il se livre à un petit jeu que j'ai pas inventé d'ailleurs, qui existait bien. Donc, il est charmant. Hein. Il a juste un problème à une main qui est un peu difforme, mais il le cache avec un gant. Comme il est charmant, bien sûr, il fait tomber toutes les filles qu'il croise. Et alors, son grand jeu, en fait, c'est un jeu qui était pratiqué au Moyen-Âge, qui était pratiqué jusqu'au début du XXe siècle. Il s'agit d'identifier un cocu. Et le cocu, on lui tombe dessus en bande. On le met à califourchon sur un âne ou sur un cheval, la tête tournée vers le cul. Bien sûr, on le ligote là-dessus, on l'envoie en ville et tout le monde sait que c'est un cocu. Donc, mon elfe, lui qui s'appelle Ayrin Manargent, il ajoute une petite facilité. Comme il est charmant, en fait, c'est lui qui commence par cocufier le malheureux. Comme ça, il est sûr d'avoir identifié le bon cocu. Et ensuite, donc, il envoie le bonhomme sur son âne afin que toute la ville le sache.
Merci Jean-Philippe pour ces bonnes idées pour meubler les week-ends d'hiver. Voilà,
j'ai encore des petits jeux qui viennent des compagnies folles du Moyen-Âge. Si vous avez envie de vous amuser entre amis, vous savez à qui vous adressez.
C'est un côté très télé-réalité.
Oui, c'est vrai.
C'est vrai que ça ferait une bonne émission.
C'est vrai.
Oui,
c'est vrai. Le cornard.
Laurent, lorsque on part d'un principe qu'on a un personnage qui est au centre de l'histoire et qui ne correspond pas forcément aux critères d'un héros tel qu'on l'entend, c'est-à-dire d'un héros, j'allais dire, positif, est-ce que derrière, ça, pour justement créer les personnages secondaires, est-ce que ça modifie un peu aussi les codes ? Parce que faut rendre plus méchants les méchants, il faut...
Non, pas forcément, parce que ce que je montre, c'est un... C'est un personnage qui, pour nos normes, ne peut pas être positif puisque c'est quelqu'un qui tue des gens. Enfin, qui tue d'autres personnes. On ne fait ça qu'en temps de guerre.
Et pour de l'argent en plus.
Et pour de l'argent, mais c'est institutionnalisé. C'est par eux que se règlent des différends. Donc ils ont une utilité sociale. Mais de la même manière qu'un soldat, qu'un marine américain va intervenir dans d'autres pays pour le bien de la paix du monde, par exemple, officiellement. Donc c'est la même chose. Et donc, pour nous, oui, effectivement, c'est un personnage qui est négatif. Enfin, qui peut être que négatif. Dans les normes sociales dans les normes de cette société, non, c'est un personnage qui est neutre, qui a tout à fait sa place. Là où il devient gênant, enfin, là où il devient justement perturbateur, c'est quand il se met à ne plus vouloir trop jouer le jeu qu'on lui demande. Là, il devient dangereux. Il devient gênant et même dangereux. Et en fait, c'est sa trajectoire de vie gauchit un peu toutes les destinées autour de lui à cause de ça. Quoi.
Et donc, il se crée des ennemis à partir de ce moment-là, forcément.
Il se crée des ennemis, il se crée aussi des alliés inattendus. En fait, ça fait ressortir justement le... Mais c'est très... Tout le cycle est imprégné de ce relativisme-là, en fait.
Donc effectivement, c'est...
C'est pour ça qu'il n'y a jamais aucun jugement de valeur dans ce bouquin, parce que ce n'est pas le sujet finalement.
Et le retour que vous avez des lecteurs, il se passe comment ? Est-ce que, justement, comme on en parlait avec Jean-Philippe, où visiblement, malgré tous ses défauts, Benvenuto a quand même...
Le retour des lecteurs, déjà, ils ne retournent pas le bouquin, c'est déjà bien. Le retour des... Bah, en fait, il est...
Mais est-ce qu'il l'apprécie, votre...
Ouais, beaucoup, en fait. Hein. C'est un personnage qui est beaucoup...
Ça vous perturbe
assez,
pas, ça
qui est assez Non, pas du tout, parce que je suis arrivé à mes fins. C'est parfait. Le c'est la moitié... Enfin, c'est un duo. Hein. Le cycle, en fait, c'est un duo. C'est la trajectoire donc, de ce capitaine de Horde, Audric, qui va mener sa horde un peu à sa perte hein, d'ailleurs à cause de ses choix et puis un paysan qui va sauver alors que rien ne l'obligeait à le faire et en fait la vie d'un jeune paysan ne vaut rigoureusement rien mais il va l'épargner en tuant même des soldats qui étaient en train de le violer et finalement lui ce personnage qui va incorporer dans sa horde va être l'artisan de sa perte. Donc c'est aussi le ce qui peut apparaître d'abord comme et ce qui est effectivement pour une morale, si on admet l'existence d'une morale universelle, il a agi conformément à cette morale. Et alors qu'il devrait s'en mordre les doigts, il ne s'en mordra jamais les doigts, puisqu'il aura créé cette situation.
Mais finalement, on finit toujours par payer une bonne action, quoi.
C'est un peu, d'une certaine manière, mais enfin, en même temps, ça va être l'artisan de la transformation même du monde, en fait. Parce que c'est la fin d'un certain type de valeur, ce cycle aussi.
Christophe, est-ce que vos dieux, justement, au lieu de se disputer entre eux et puis d'essayer d'accaparer du pouvoir, etc., il ne ferait pas mieux de s'occuper un peu des hommes et puis de l'aider, votre pauvre personnage, à justement sortir de son mal-être?
Les dieux grecs sont très humains, mais déjà dans le panthéon grec d'origine, ils s'entre-déchirent et ils se comportent. Ils sont même très enfantins. Oui, oui. Donc, oui, dans l'idéal, il y a l'un des personnages du roman qui préconise, avec les pouvoirs que nous avons, nous pourrions. Parce que c'est la période aussi où la bombe atomique est testée dans le désert du Nevada. Donc là, les dieux commencent à se dire. Les hommes nous rattrapent, attention. Bon. Donc il y a l'un des personnages du clan qui voudrait que les dieux arrêtent de se focaliser sur leurs luttes intestines et gouvernent un peu le monde, prennent le gouvernail. Et, bon, c'est juste un son de cloche parmi tous les autres. Les autres dieux sont plutôt, ont plutôt le regard, plutôt des œillères. On va dire.
C'est leur petit égo, ou leur gros égo plus exactement, qui les dirige.
C'est leur égo, c'est un miroir de notre égo à nous. Hein, regardez, tous ces auteurs autour de table, on a tous nos égos. Il y a parfois des petites jalousies, des petites choses. C'est un reflet de la réalité, quoi. À peine grossi à la loupe, à peine caricaturé pour les besoins de la dramaturgie.
Et votre héros là-dedans, comment il se débrouille au milieu de cet embrouillamini divin?
Bah, il est trimballé, ballotté, comme une boule de flipper, mais au bout d'un moment, il va un peu reprendre les choses en main, et dans le dernier acte, il va essayer de retourner la situation, et puis surtout, il va essayer de reprendre sa vie en main, puisque on parle de trajectoire ou de courbe de personnage. Le mien va, à force de côtoyer des immortels, il va se rendre compte, il va accepter sa propre finitude. Voilà, il va accepter la condition humaine et être un peu plus zen à la fin du roman qu'il ne l'était au début.
Sans forcément s'apprécier plus pour autant.
Sans forcément s'apprécier plus pour autant. Non, il s'agit pas non plus de le transformer en.
En Narcisse.
En Narcisse ou en surfeur californien sans état d'âme. Non, mais voilà, il fait
quelle déception.
C'est une sorte de thérapie un peu musclée. Fréquenter la mafia, vous verrez, ça ira mieux après.
Vincent, quelle est la place de l'ambition aussi dans l'évolution de vos personnages? Je parle pas forcément de Nexus, mais je parle du psy et du policier. Est-ce que justement ils sont pas perdus par leur ambition chacun l'un l'autre?
Oui, je pense qu'on peut dire ça d'une certaine façon. C'est des gens qu'on.
Parce qu'ils sont pas totalement désintéressés dans l'affaire non plus. C'est pas juste pour faire plaisir à Nexus et essayer de l'aider à s'en sortir.
D'abord, c'est une affaire assez importante dans leur carrière à tous les deux, parce que ils ont été chargés officieusement par le type qui gouverne la ville où ça se passe, et il se trouve que l'une des trois victimes qui ont été tuées dans la rue est sa maîtresse, et ce gouverneur veut savoir si c'est un hasard. Ou s'il y avait derrière lui, derrière cet acte, une tentative pour l'atteindre. Donc c'est vrai que c'est une enquête un peu en haut lieu quand même. Et ça peut stimuler leur ambition comme étant... Ensuite, je pense que c'est des gens qui, dans leur métier de psychiatre et de policier, n'ont pas encore tout à fait perdu l'ambition de changer un petit peu les choses.
Mais ils sont pas loin de devenir marginaux chacun dans leur milieu.
Ils sont hétérodoxes, ils n'ont pas la trajectoire classique chacun dans leur milieu, et c'est sans doute aussi pour ça, c'est sans doute aussi parce que au lieu de pratiquer ça de façon routinière, ils ont encore ce désir d'essayer de repenser. Mon psychiatre, Tom Freund, c'est quelqu'un qui a été à un moment donné psychanalyste, parce que c'est un peu dans sa génération en passé par là. Puis ensuite, il a fondé une clinique qui suscite sans doute effectivement des jalousies autour de lui, parce que il y met le paquet, il a beaucoup de moyens, donc il arrive à traiter des cas assez graves et à avoir un bon taux de sortie, c'est-à-dire à permettre aux gens ensuite de retourner dans la vie civile normale et de se réinsérer. Ça se passe plutôt bien pour lui. Et donc, c'est sûr qu'il y a de l'orgueil aussi de se dire « je vais prendre un cas ». Un peu désespéré, comme ce type très marginal, très, très asocial qui est condamné à perpétuité, et je vais réussir à l'aider. On est aussi perdu, je pense que la plupart des gens qui sont dans des professions de soins se pose toujours cette question-là, la question de la limite de leur action. Qu'est-ce qu'ils peuvent, jusqu'où ils peuvent aider les gens? Et là où la raison est sans doute de se dire, bon bah voilà, j'essaye de donner un coup de main à des gens qui sont vraiment dans des situations difficiles, mais dans l'ensemble, c'est pas moi qui contrôle, etc. Lui, il a envie d'en faire sans doute un peu trop. Donc c'est une pente glissante
sur laquelle je représente. Au point qu'il devient un peu la marionnette de Nexus finalement.
Au point que entre psychiatre et patient, on sait pas toujours qui manipule l'autre et qui et souvent les gens qui, enfin en l'occurrence c'est un psychiatre qui est devenu ça aussi parce que lui-même n'est pas hyper équilibré, comme c'est le cas de pas mal de gens qui se dirigent vers cette profession. On est intéressé par ça parce que ça répond à quelque chose en nous. Moi, je pense que ce roman était aussi une façon de jouer avec mes propres déséquilibres, d'une certaine façon. C'est un roman sur le déséquilibre mental et sur la façon dont on peut essayer de reprendre pied. Et donc, mes personnages se mettent en danger. Moi, j'essaye aussi de perdre le contrôle de temps en temps. Enfin, j'essaye pas, mais ça se fait, tout simplement. Il y a des romans sur la folie ou sur le rêve qui se laissent embarquer complètement dans la folie, dans le rêve. Et là, mon idée était plutôt de représenter ça, de montrer aussi ce que ça apporte à notre identité, quelle part de notre identité se joue dans le sommeil et dans le rêve, en quoi ça nous construit, en quoi on a besoin aussi de ça, et pas seulement de notre réel très rationaliste, etc. Donc une vie à la fois diurne et nocturne. Et en même temps, d'avoir des garde-fous, des gens qui essayent de pas laisser les gens s'enferrer complètement là-dedans ou partir complètement là-dedans. C'est un peu une vieille histoire de ce point de vue, c'est le côté l'imaginaire comme évasion et comme chute possible qu'on a chez Don Quichotte ou chez des gens comme ça où on sait pas si l'imaginaire représente un danger quand on s'y embarque trop loin et en même temps il représente une chance et ceux qui arrivent à s'en nourrir ont sans doute une vie plus riche et savent rapporter des choses dans le réel différentes de ceux qui n'en décollent jamais et qui sont très terre à terre. Je pense que c'est aussi pour ça qu'on lit, etc. Donc là, un fou ou quelqu'un dont on se demande s'il est fou et des gens qui de temps en temps s'embarquent avec lui, de temps en temps au contraire veulent le ramener à terre et garder les pieds sur terre. C'est vraiment dans cet équilibre là que se joue l'éveilleur.
Alors il reste une question, c'est la question de la rédemption. Est-ce qu'ils peuvent se rédimer, ces personnages? Jean-Philippe, est-ce que vous pensez qu'ils sont indécrottables tous?
En général ou les miens?
En l'occurrence, ceux de gagner la guerre.
Ceux de gagner la guerre, ils sont mal partis.
Parce qu'ils tirent aucune leçon finalement, ni les uns ni les autres.
Ah si, si, ils tirent des leçons tactiques et stratégiques voilà, sur tous les avantages.
Ils tirent des leçons qui les rendent encore pires
que les
alors,
autres.
Voilà.
Ah, oui. En ce sens-là, ils tirent des leçons. Hein. Non, ils sont mal partis. Hein. Ils sont mal partis, mais on m'a souvent posé la question. On m'a posé plusieurs fois la question de Benvenuto. Est-ce qu'il est capable de se rédimer? Mais il refuse la rédemption. Je veux pas déflorer parce que c'est plutôt à la fin du roman. Mais il y a un moment où un personnage lui offre la possibilité de repartir à zéro, pas d'effacer ses fautes, mais de redevenir l'homme qu'il était ou qu'il aurait pu être. Avant de verser dans le crime. Et en fait, il s'est tellement défini par tous les crimes, et finalement, il est devenu quelqu'un de tellement important parce que c'est un criminel, que pour lui, la rédemption, ça signifierait redevenir personne. Donc, il refuse, il veut rester un criminel, même si par ailleurs, il lui faut traîner une vie terrible, une vie, voire une mort, puisqu'on ne sait pas très bien à la fin du roman s'il va survivre ou pas. Je crois que pour ce qui est de son patron, le Podesta Ducatore, même si il agit quasiment en triomphateur, c'est un damné à la fin. Il sacrifie tout à l'idée qu'il se fait de sa grandeur en se fondant sur l'idée que de toute manière, puisqu'il est plus grand que les autres, même par des moyens immoraux, sa grandeur servira à l'État. Et donc, qui peut tout sacrifier, y compris la morale, y compris sa conscience à l'État. Donc,
d'autant qu'on voit qu'ils
sont très mal partis pour
parce qu'ils sont tous capables, même jusqu'à leur lit de mort, et c'est pas une métaphore, de dresser des coups fourrés à tous les autres.
Oui, mais en même temps, celui qui est mourant, finalement, peut-être que
il agit pour le bien commun.
Oui, alors là, mais on est toujours dans une logique machiavélique, mais en trahissant, il a encore une vague notion du bien commun. Oui.
Vague.
Disons relative.
Tout est relatif. Laurent, pareil, là encore, on n'est pas vraiment. C'est difficile de poser la question de la rédemption, puisque on n'est pas forcément dans quelqu'un qui. J'ai employé un vocabulaire qui n'est peut-être pas forcément très approprié, mais qui pêche ou qui faute, finalement. Et pourtant, il y a quand même.
Lui, il est dans une position intermédiaire. Il accomplit les bases œuvres, finalement, des seigneurs, qui, eux, représentent la face lumineuse du système. Finalement, à partir du moment où il veut plus endosser cette part d'ombre qui est celle d'une sorte de guerre perpétuelle, finalement, rien ne va plus et il remet les fondements même de l'univers tel qu'il est défini par les seigneurs. Alors il se trouve que dans ce monde-là, les seigneurs ont une véritable légitimité divine. Enfin, ils sont investis vraiment d'un. On ne peut pas imaginer la vie sans ces seigneurs qui habitent les arbres de vie, c'est-à-dire ce qui a donné naissance aux formes de vie qui peuplent ce monde. Donc se rebeller contre les seigneurs et leur ordre, c'est être sacrilège forcément. Donc c'est de toute façon c'est un fauteur de première, Audric.
Mais donc en revenant dans ce que nous on pourrait considérer donc à partir être du moment le droit où chemin, il devient au contraire un.
À partir du moment où il a fait le premier pas, il n'y a plus de rédemption vraiment possible. Enfin, il n'y a plus de retour à l'ancien.
Voilà, on ne peut pas revenir en arrière.
Ouais, exactement.
Christophe, vous avez déjà en partie répondu sur justement la
le personnage
rédemption.
Principal. C'est pas vraiment une rédemption, c'est plus une trajectoire d'acceptation, pas de résignation, mais voilà, d'apaisement ou d'acceptation. Ouais.
Et vos dieux, ils ont conscience que. Ça part un peu en vrille, tout ce qu'ils font, et qu'il y a peut-être un moment où il faudrait...
Non, j'ai l'impression que les personnages secondaires campent sur leur position, hein, aussi bien les dieux que le patron du FBI et la mafia. Tout le monde est aussi pourri à la fin qu'au début. Et c'est juste notre héros qui a une véritable courbe, pour parler en termes scénaristicaux.
Voilà. Mais c'est pas forcément pour ça qu'à la fin, il boit et il fume moins, pour reprendre le titre du café littéraire.
Il se calme un peu sur la boisson et puis il retourne dans l'enseignement. Je ne sais pas si...
Oh, c'est terrible, c'est une
belle rédemption.
Je tiens à préciser que M. Lambert a sans doute une vision très fidèle des milieux enseignants.
Il n'y a pas de prof dans la salle, c'est bon, ça y est.
Tu le punis.
Oh, y en a certainement.
Bon, bah, maintenant qu'on a tapé sur les profs, on va taper sur les psys aussi. Alors. Mais. Là encore, c'est pareil, c'est difficile de parler de rédemption, d'abord parce qu'on va essayer de ne pas révéler la fin non plus, mais oui, ils sont quand même... on sent petit à petit qu'ils sont quand même embarqués tous les trois dans quelque chose qui ne peut pas forcément bien se finir.
Oui, il y a... Dans l'ensemble, c'est quand même plutôt une sorte de dérapage, hein, plus ou moins contrôlé, donc l'issue, elle est pas, elle est incertaine. Il y a plusieurs choses qui pourraient avoir trait à la rédemption. Il y a parfois, ça peut être de l'ordre de l'instant, c'est-à-dire c'est juste des moments où on y croit. Par exemple, Nexus, dans sa vie, dans cette grande ville Rexon, où il est quand même dans l'ensemble assez malheureux, de temps en temps, il a des moments où il y croit, et c'est des moments où il se rend dans un musée qu'il aime beaucoup et où il y a des tableaux, notamment des tableaux flamands, des tableaux de l'école du Nord, et on voit les paysages. Qui pour moi était une grosse source d'inspiration, les paysages d'arrière-plan de ces tableaux de l'école du Nord, qui sont souvent des paysages parfois derrière la bataille. Par exemple, il y a une grande bataille qui se livre en premier plan, puis derrière c'est beaucoup plus calme, c'est dans des tons bleutés, etc. Et son univers onirique a été pas mal marqué par ça. C'est-à-dire, moi je me suis un peu dit en tant que romancier, qu'est-ce qui se passe là-bas ? Il y a le premier plan, mais qu'est-ce qui se passe dans ces paysages derrière ? Qu'est-ce qui se passe si on en fait un monde et si on regarde voilà, les événements qui s'y déroulent ? Et donc là, il se dit, oui, peut-être que quand on regarde cette beauté-là, il y a quelque chose de l'ordre de la rédemption qui se joue. Mais ça ne fait pas passer d'un état à l'autre, quoi. C'est un instant et puis ça disparaît. Donc si on prend la question un peu plus, de façon plus générale, sur la société dans laquelle ils vivent, là, les perspectives sont assez sombres, je dirais, parce que le problème auquel ils s'affrontent tous les trois, et en particulier Nexus, c'est qu'ils vivent dans une société qui est très très contraignante, très très rationaliste, et où grosso modo leurs besoins d'imaginaire ne trouvent pas à s'accomplir.
D'ailleurs, finalement, que ce soit Tom Freud ou que ce soit Rilviro, ils sont assez pauvres au niveau imaginaire. Ils sont très ancrés dans dans une vie quotidienne.
Ils sont assez ancrés dans une vie quotidienne, et c'est Nexus qui va être celui qui leur en donne plus, qui est une figure de conteur qui les nourrit de ce point de vue-là. Il y a donc de temps en temps chez eux le fantasme d'une espèce de contre-attaque, c'est-à-dire d'une espèce de vision où l'imaginaire envahirait la ville. Hein, il y a des œuvres d'art où l'art débarque dans la rue, par exemple. À un moment donné, dans le livre, il y a une exposition de masques, et puis on imagine que ces masques descendent dans les rues, sont portés par les gens dans les rues. Et là, il y a quelque chose qui s'infiltre comme ça. Mais pour moi, l'équilibre, il reste difficile à tenir, et je pense qu'il est un peu brisé. Donc, ils vont être là pour... Enfin, ils sont là avec cet espoir que peut-être ils pourront vivre dans une société plus équilibrée un jour. Mais on n'y est pas, ils n'y sont pas. Donc je pense que la rédemption, c'est un horizon, mais c'est pas quelque chose qui est atteint dans le livre, en tout cas.
Bon, ben voilà, vous l'aurez compris, hein, y a des méchants attachants, enfin des méchants, encore une fois, tout est relatif. Pas forcément calquer ces systèmes de valeurs qui peuvent être les nôtres à 100% sur les personnages dont vous venez d'entendre parler, mais effectivement, il y a des questionnements à avoir. Il y a essayer de comprendre aussi pourquoi ces personnages sont ce qu'ils sont, même s'ils sont parfois ou peuvent apparaître déplaisants. Et puis, vous l'aurez compris, hein, les auteurs, eux, au contraire, fois que je dis ça, je vais peut-être leur poser la question, ils ont une affection quand même pour leurs personnages.
On vit avec une partie de l'année, donc au moment où on l'écrit. Donc,
C'est toujours plus amusant d'écrire, c'est plus ludique les passages avec les bad boys que les passages avec les boy scouts, hein, c'est sûr. Et même en tant que spectateur ou lecteur, moi dans La Guerre des Étoiles, je préfère Han Solo à Luke Skywalker, dans Lost, je préfère Sawyer au Dr Shepard. Et souvent d'ailleurs, quand il y a un triangle amoureux avec un gentil... Il y a ça aussi dans Autant n'emporte le vent avec Vivian Leigh et Rhett Butler. Et souvent dans le triangle amoureux, c'est jamais le gentil blondinet qui remporte la fille, c'est toujours le mauvais garçon.
Ouais, je renchérirais, c'est aussi les méchants qui attirent le plus. Et comprendre pourquoi, c'est quand même intéressant. Kevin Spacey dans Seven, plus marquant.
J'avais une autre référence moi avec Kevin Spacey à laquelle votre livre m'a fait penser à un moment.
Plutôt
Usual Suspect. Oui,
ouais, voilà, ces films-là. Kevin Spacey dans ces films-là, une figure typiquement un visage assez lisse, mais il peut tenir une minute plan fixe sans qu'on sache de quel côté ça va tomber.
Si c'est un ange ou un démon.
Exactement. Donc cette figure de méchant-là, moi, m'a pas mal inspiré, et j'ai de l'affection pour les personnages de ce genre.
Jean-Philippe, vous les aimez, vos personnages ?
Est-ce que je les aime ? Bon, moi je peux dire qu'ils m'ont rudoyé. Bon, je l'ai dit à quelques personnes, mais à l'issue du roman, je me suis payé 2 mois de rééducation orthoptique parce qu'ils me fusillaient les yeux quand même. Hein. Oui, bien sûr, je les aime, mais Benvenuto en particulier m'a un peu forcé. Hein. Il représente absolument tout ce que je déteste, en particulier la fanfaronnade, parce qu'il est très fort là-dessus, même s'il prétend le contraire. Au départ, c'est un personnage que j'ai construit, qui était très éloigné de moi, mais à force de le fréquenter, forcément, il a déteint, et maintenant, j'ai du mal à m'en dépêtrer.
Au point qu'on va le retrouver un jour ?
Qui sait ? C'est pas exclu. J'ose pas trop en parler, parce que si jamais je le croise, il va pas apprécier mes projets, mais c'est pas exclu.
Eh bien. En tout cas, merci à tous pour ce premier Café littéraire de l'après-midi. Il y en a d'autres qui arrivent ici à l'espace court et également au deuxième Magic Mirror que je vous encourage à aller découvrir. D'ailleurs, je ne dis pas ça parce que c'est moi qui l'anime, mais il y a un très bon Café littéraire qui va se préparer dans quelques minutes avec Michel Lebris, avec Pierre Pelot et avec Vincent Message. On va parler des romans au long cours et vous l'aurez compris en tout cas en écoutant Vincent déjà dans ce Café littéraire là. Il va y avoir beaucoup de choses à raconter parce que c'est un roman très dense, très riche. Et je pense qu'avec Pierre et Michel, ça sera aussi quelque chose de très dense et de très riche, même si on va retourner dans des univers et des eaux peut-être un peu plus tranquilles que celles que nous venons d'évoquer à l'instant en compagnie de nos autres auteurs. Merci à tous, bon après-midi et bonne continuation pour la suite du festival. Et évidemment, vous retrouvez les auteurs sous la bulle du livre.